Merci à vous tous d'être là pour entendre parler de la question de l'âme et du corps. Alors, avant de consacrer cet exposé à l'âge classique, c'est-à-dire au fond à la période des temps modernes, Descartes, Pascal, Leibniz, Spinoza, bon, on verra si on peut aussi pousser un peu plus loin les développements. Je vais faire un court rappel, non pas de ce qu'est l'âme et de ce qu'est le corps dans la philosophie antique, mais du problème de la liaison âme-corps dans le cadre d'une ontologie, si vous voulez, c'est-à-dire au fond d'une doctrine de ce qui est, de la nature, une ontologie qui est fondamentalement univoque. Je veux dire par là que les choses se disent évidemment différemment. On n'appelle pas une table comme on appelle un arbre, comme on appelle une étoile ou comme on appelle un dieu, mais toutes ces choses, malgré tout, entrent dans un même univers et s'ordonnent d'une façon évidemment hiérarchique. Une table ou un arbre valent moins qu'un dieu ou qu'une, peut-être une étoile, bon, s'ordonnent d'une façon hiérarchique, mais au sein d'un même univers. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'au fond, les choses ne se disent pas de plusieurs façons. Bon, prenons un traité célèbre, je ne fais qu'une très rapide référence à ce traité, qui est le traité d'Aristote, le traité de l'âme, Peripsuches en grec, De anima en latin, qui a eu une importance et une diffusion tout à fait considérable dans les siècles futurs, hein, au moins jusqu'à Descartes, mettons jusqu'à la Renaissance. Ce sont des textes que tout le monde connaît, que tout le monde commente, notamment le traité du De anima. Or, qu'est-ce qu'on lit dans le De anima, ou quel est le... On lit ceci, que la vie, hein, zoé en grec, la vie, c'est la présence d'une âme dans un corps. Autrement dit, c'est la raison pour laquelle on appelle un corps vivant aussi un corps animé. Hein, c'est parce que justement, il a une âme, ce corps, qui lui est inhérente. Hein, il a une âme inhérente à lui, et grâce à laquelle il est ce corps organisé que nous pouvons observer chez un être vivant. Par conséquent, on peut dire, si vous voulez, d'une façon un peu rapide, mais sûre, que l'âme, pour les philosophes de l'Antiquité, notamment pour Aristote, l'âme, psyché, hein, plus que pneuma, hein, il y a deux mots, au moins deux mots pour dire âme, en grec, psyché, pneuma, pneuma qui est plus matériel que psyché, qui est plus spirituel. Mais c'est le péripsychès, donc l'âme. Eh bien, on peut dire, sans risque de se tromper, que l'âme, c'est le principe de vie. Et que, par conséquent, lorsque un être vivant périt, c'est parce que, justement, son âme a... Bon, pour différentes raisons, mais que son âme s'est, d'une certaine manière, éteinte dans l'organisation du composé, le sunolone, que constituent l'âme et le corps. Alors, juste un mot pour dire que, au fond, l'âme et le corps ne sont pas, si vous voulez, deux notions distinctes. Elles sont deux notions distinctes sur le plan cognitif, bien sûr, on parle de l'âme et du corps, Platon parle sans arrêt de l'âme et du corps, mais d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire du point de vue de la réalité, l'âme ne se sépare pas du corps, ni le corps de l'âme. Autrement dit, ce qui est réel, c'est le sunolone, hein, c'est le composé de l'âme et du corps. Et c'est ce qui périt. Alors ensuite, on peut dire, bon, ben, l'âme s'en va d'un côté, le corps d'un autre, voilà, et consommer le divorce qui produit la mort. D'accord, on peut imaginer ce qu'on veut. Mais ce qui est sûr, c'est que l'âme constitue justement le principe d'organisation, le principe de vie du corps, et que quand ce principe se corrompt, et le corps disparaît aussi. Donc en fait, le corps n'a pas d'autonomie. Le corps n'est jamais, si vous voulez, que l'instrument, pour ainsi dire, organon en grec. Hein, le corps n'est jamais que l'instrument de l'âme. Hein. Si bien que Aristote, dans ce traité de l'âme, distingue plusieurs types d'âmes en fonction des différentes, justement, fonctions du vivant. Il y a des âmes végétatives, hein, dont la fonction est d'assurer la reproduction d'un végétal, ou de ce qui est végétal dans l'organisme, mettons, animal. Il y a une âme locomotrice, c'est celle qui permet justement aux membres de se mouvoir et de pratiquer, donc de se mouvoir d'une différente façon. Il y a une âme sensitive, donc c'est par elle qu'on sent les qualités sensibles. Il y a une âme intellective ou intellectuelle, c'est celle par laquelle on pense, nous en général, en grec. Hein. Le nous désigne la partie intellective de l'âme. Donc en fait, d'âme, si vous voulez, il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs parce que, justement, chacune a une fonction bien distincte. Et sans cette fonction, il n'y a pas de vie. Hein. Donc, évidemment, ça donne de la vie ou de l'être vivant une conception, on va dire, si vous voulez, philosophiquement, je vais expliquer le terme, il faut tout expliquer, hein, même si vous le savez, ça serait très bien, mais bon, si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave, une conception téléologique. On entend par téléologie le rapport, si vous voulez, à la fin, hein, finaliste, si vous voulez. Bon, la conception aristotélicienne, elle est massivement finaliste, c'est-à-dire que tout sert à quelque chose. La nature ne fait rien en vain. Tout organe a une fonction. Mais ce serait absurde de dire que tout organe a une fonction et l'organisme n'en aurait pas. L'organisme, c'est-à-dire l'ensemble d'organes, n'aurait pas de fonction. Donc en fait, à chaque être vivant est assignée une fonction qui est la sienne en tant qu'il est cet être vivant et pas un autre. La fonction de l'être végétal, la fonction de l'être animal, la fonction de l'être pensant, qu'est l'homme, est une fonction évidemment distincte, mais vous voyez qu'au fond, les choses sont organisées en fonction justement du composé qui résultera de cette organisation. Voilà. Je n'insiste pas là-dessus, c'est un très bref rappel, mais c'est pour vous dire, si vous voulez, que, au fond, jusqu'à Descartes, l'idée, si vous voulez, d'un corps qui serait purement corps et qui pourrait, en tant que corps, fonctionner, ne se pose même pas. Tout corps, en tant qu'il fonctionne, requiert le concours d'une âme. Or, c'est ça, à mon sens, la principale coupure épistémologique, sans parler de ses retombées et de ses incidences métaphysiques, du cartésianisme. C'est justement la distinction de l'âme et du corps, mais non pas au sens métaphysique tout de suite, hein, mais au sens épistémologique. Autrement dit, on peut connaître le corps par des notions qui sont purement corporelles. Et on peut connaître l'âme par des notions ou des idées qui sont purement intellectuelles ou de l'ordre de la pensée. Et que par conséquent, la liaison, en quelque sorte, âme-corps, est un problème particulier et non pas un problème général. Pour les scolastiques, la liaison de l'âme et du corps, c'est au fond, si vous voulez, l'application à l'homme de ce qui constitue toutes les choses de la nature, à savoir l'idée que il y a ce que les scolastiques appellent des formes substantielles. Une forme substantielle, mettons par exemple ce stylo, si vous voulez. La forme substantielle de ce stylo, c'est son être, si vous voulez, de stylo, sa fonction de stylo. Donc, forme substantielle, ça veut dire qu'une forme, un modèle, mettons, de stylo, une carapace de stylo, a été produite par un artisan, afin justement que le stylo ait cette fonction. Donc, au fond, à la limite, peu importe la matière, l'essentiel, si vous voulez, c'est la forme qui s'emboîte dans la matière pour donner justement une forme substantielle, c'est-à-dire, au fond, un être organisé. Et de ce point de vue, l'homme n'est pas une exception dans la nature. Un stylo est un être organisé. Enfin, j'exagère un peu, hein. Mais un arbre est un être organisé, une étoile est un être organisé, etc., etc. Bon, donc, en fait, tous les êtres de la nature sont organisés, l'homme est un être organisé, c'est-à-dire c'est l'union de l'âme et du corps. Bon. Or, Descartes dans ses tout premiers travaux, écrit un traité qui s'appelle le traité de l'homme. Il ne le publie pas, il sera publié qu'après sa mort. On le retrouvera dans les papiers de Descartes, une fois ses papiers revenus de Suède, où il avait malencontreusement décidé d'aller passer quelque temps auprès de la reine Christine. Ça lui a été fatal. Le pouvoir corrompt, et même plus, vous voyez, il tue. Donc voilà, le pauvre Descartes y a laissé sa vie, c'est dommage, parce qu'il n'était pas très âgé, et je le trouve de moins en moins âgé d'ailleurs, plus je le suis moi-même, moins je trouve qu'il était. Donc je laisse ces gens. Donc on a trouvé ce texte très bizarre, qui est le traité de l'homme, dans les papiers de Descartes. Or, il y a une chose qui est très frappante dans ce traité de l'homme, non publié mais complètement achevé, hein, rédigé de bout en bout. Il y a une chose qui est très surprenante, c'est que de l'homme, en fait, il n'en est absolument pas question dans ce traité. Mais en revanche, il est question en long et en large du corps. Et du corps considéré justement comme une machine. C'est ça la célèbre théorie, si vous voulez, du corps-machine. Si vous avez des dissertations comme vous en aurez, si vous êtes en HEC, enfin en prépa commercial, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, sur le corps, il est inévitable, si vous voulez, que vous ayez à parler du corps comme machine. C'est au fond le premier modèle scientifique, pourrait-on dire, si vous voulez, du corps. Du corps entendu comme, évidemment, corps organisé, corps vivant, corps humain, si vous voulez. Mais ce qu'il y a de très surprenant dans cette approche cartésienne, c'est que justement Descartes explique toutes les fonctions corporelles, la nutrition, la digestion, la marche, la respiration. Il explique toutes les fonctions corporelles, hein, justement seulement par des notions corporelles ou par des notions issue de l'expérience des corps matériels. Par exemple, il va comparer le cœur à une pompe. Et c'est d'ailleurs pas du tout idiot, car au fond, le cœur fonctionne effectivement, la systole et la diastole, de la manière comme une pompe aspirante. Et de ce point de vue, le modèle mécanique est tout à fait analogue à l'organe appelé cœur. Il va comparer les nerfs à des cordes. Il va comparer les poumons à des voiles qui se gonflent par le vent. Autrement dit, tout son objectif est de trouver un équivalent mécanique d'une fonction vivante. Et dès lors qu'il trouve à une fonction vivante un équivalent mécanique, autrement dit en disant une pompe fait exactement la même chose que le cœur, ça aspire et ça rejette, hein, eh bien, au fond, il n'a pas besoin d'autre chose pour expliquer le fonctionnement d'un organe. Hein, il lui suffit de pouvoir au fond, lui donner un équivalent mécanique. Alors évidemment, la chose est plus difficile pour l'organisme, l'ensemble d'organes, de trouver un équivalent mécanique. Le seul équivalent mécanique, et il est fruste, il est vraiment rudimentaire, mais il existe à cette époque de Descartes, c'est l'horloge. Vous verrez, si vous lisez les textes de Descartes, que c'est très fréquemment, si vous voulez, que Descartes compare le corps à une horloge. Mais évidemment, l'horloge telle que Descartes peut la connaître est encore un instrument très rudimentaire. On n'a même pas encore, si vous voulez, l'horloge à pendule. C'est Huygens qui, grâce à la détermination de l'isochronisme du pendule, hein, donc de la période d'oscillation du pendule, construira justement la première horloge à pendule et donc déjà assez précise pour la mesure du temps. Mais les horloges que connaît Descartes, c'est des horloges avec des roues qui sont engrenées l'une sur l'autre et qui marchent une fois qu'on a remonté le système et qui marchent tout seul. C'est ça qui intéresse Descartes, c'est que ça marche tout seul. C'est que ça marche tout seul. C'est justement de pouvoir comparer le corps et l'horloge, non pas du point de vue, évidemment, ça va de soi, de leur physionomie, si je puis dire, mais du point de vue de leur fonctionnement. Autrement dit, on n'a pas besoin d'un horloger, si vous voulez, pour que l'horloge marque les heures et les marque le plus exactement possible. Il suffit que l'horloger ait construit son horloge de telle manière que, par le simple emboîtement des parties les unes dans les autres, on a le résultat chercher, à savoir donner l'heure. Hein. Il n'y a pas, si vous voulez, une petite âme horodéictique, comme on dit joliment, si vous voulez, à l'époque. L'horloge n'a pas d'âme horodéictique. Hein. Eh bien, il n'est pas nécessaire non plus que le corps ait une âme, en quelque sorte locomotrice, si vous voulez, nutritive, ou une âme qui le fasse fonctionner. Le corps peut fonctionner selon les seules lois de la machine corporelle, et qui sont des lois mécaniques. Hein. C'est pour ça qu'au fond, on parle du mécanisme cartésien, parce que ça désigne justement la réduction du vivant dans sa spécificité, et la spécificité du vivant, c'est l'animation, justement, hein. C'est le fait d'être animé, un corps animé par rapport à un corps inanimé, donc à un modèle, au fond, strictement mécanique. Alors, est-ce que ça veut dire que, pour Descartes, la distinction entre le vivant et le mort, par exemple, hein, ou entre l'organisé et l'inorganisé, entre l'organique et l'inorganique, disparaît? Non, elle ne disparaît pas pour autant. Simplement, si vous voulez, Descartes a recours à une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Hein, dit au fond, un corps mort, c'est comme une horloge qui ne marche plus. Hein. Un corps blessé, ou comme on dit malade, mais le corps n'est pas malade. Hein. Seul un homme peut être malade. Seul quelque chose qui a une conscience peut être malade. Donc, on reviendra sur ce problème. Mais laissons un corps, disons, qui dysfonctionne, un excès de thyroïde, que sais-je, hein, est comparable à une horloge qui marque mal les heures. Et en revanche, un corps en bonne santé, c'est une horloge qui marque parfaitement bien les heures et qui tourne par les seules lois de sa nature. Alors évidemment, il faut, pour que cette nature fonctionne, il faut quelqu'un qui l'ait créée, ça va de soi. Hein. Il faut un horloger, si vous voulez. Il faut un ingénieur, il faut un dieu pour la nature. Hein. Il faut un dieu. Il faut un dieu qui, justement, a donné à la machine corporelle les lois de son mouvement et de son devenir, si je puis dire. Autrement dit, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui intervient à tout moment dans la création. Dieu a donné, au fond, aux êtres qu'il a créés des lois qui permettent à ces êtres de fonctionner par eux-mêmes. C'est ça l'idée essentielle. Et c'est cette idée que Descartes exemplifie, si vous voulez, et là aussi c'est extrêmement nouveau et fragile, par l'idée d'automate. Par l'idée d'automate. Voilà. Le corps en tant que corps, c'est-à-dire distinct de l'âme, est un automate pour Descartes. Ou peut-être comparé à un automate. Un automate pourquoi ? Parce que justement, il possède en lui-même le principe de son mouvement et de son repos. Alors vous me direz, surtout si vous connaissez un peu la philosophie antique, mais c'est exactement ce que dit Aristote. Le vivant, c'est celui qui possède en lui-même le principe du mouvement et du repos. Et c'est ça, au fond, la vie. C'est de posséder en soi-même par rapport à un objet artificiel dont le principe de mouvement est extérieur. C'est l'artisan, c'est une cause efficiente. Ce n'est pas une cause immanente, ce n'est pas une cause formelle. Qu'est-ce qui change de l'un à l'autre ? Qu'est-ce qui change de cette représentation aristotélicienne à cette représentation cartésienne ? Tout, en un sens. Tout change. Parce que dire que l'être vivant, si vous voulez, a en lui-même le principe de son mouvement ou de son repos, c'est pour Aristote dire que le corps est informé par l'âme. Le terme d'information, c'est ça son origine. Hein. Information, c'est mettre une forme dans quelque chose, dans la matière, en l'occurrence. Et donc, l'âme informe le corps. Non pas au sens où elle lui communiquerait des messages, comme on aurait tendance à utiliser le terme d'information aujourd'hui, mais au sens, si vous voulez, où elle donne à ce corps, au fond, elle donne à ce corps la forme requise pour être un corps vivant. Inversement, l'idée d'automate implique que le principe du mouvement et du repos soit purement matériel. Autrement dit, c'est les roues et les poulies de l'horloge. Voilà le principe du mouvement et du repos. Alors évidemment, il faut quelqu'un qui a remonté, surtout à l'époque de Descartes. Il faut quelqu'un qui ait remonté le système. L'horloge, à l'époque de Descartes, elle ne se remonte pas d'elle-même. En plus, c'est une horloge justement à roues et à poulies, donc ce n'est pas très précis et c'est un peu lourd. Mais malgré tout, ce qui fascine Descartes, c'est qu'on puisse construire même rudimentairement, des instruments, justement, qui, enfin, des objets, si vous voulez, hein, qui marchent tout seuls. Comme dans les jardins des rois. Ça s'ouvre comme ça, le traité de l'homme. Vous avez remarqué que quand vous vous promenez dans les jardins du roi, de temps en temps, vous voyez apparaître une Diane chasseresse, ou une Vénus qui sort de l'eau, ou Neptune qui tend son trident. Hein ? Vous voyez les automates qu'on construit, qu'on commence à construire dans les jardins pour effrayer et égayer la compagnie. Vous voyez, bon, ben, au fond, ce que les ingénieurs peuvent faire, à plus forte raison, Dieu peut le faire. Autrement dit, s'il y a des engins fabriqués par les hommes, on peut considérer, si vous voulez, que l'homme est un engin fabriqué par Dieu. Hein ? Mais il est fabriqué comme un engin, et pas comme un être d'exception. Il est fabriqué comme un engin, c'est-à-dire il est fabriqué, si vous voulez, pour qu'il puisse marcher tout seul. Ce qui implique, évidemment, au fond, l'absence de finalité dans le corps. On ne peut pas dire, si vous voulez, que le corps marche pour quelque chose. Il marche parce qu'il lui a été donné ce qu'on appellerait aujourd'hui un programme pour fonctionner. Mais au fond, il ne marche pas pour ceci ou pour cela. Par conséquent, d'un point de vue cartésien, vous ne pouvez même pas dire que le corps cherche à se conserver dans la vie. Parce que ça implique une intentionnalité. Il ne peut pas y avoir, si vous voulez, chez Descartes, ce qu'il y a chez Spinoza, c'est-à-dire un effort pour persévérer dans l'être, qui caractérise pour Spinoza toutes les choses, et le corps encore plus que toutes les autres choses. Il ne peut pas y avoir ça. Parce que ça supposerait qu'il y ait, malgré tout, dans le corps, une petite âme. Et ça, Descartes ne veut en aucune manière tomber dans ce qui est pour lui, si vous voulez, un préjugé largement véhiculé par la tradition scolastique et qui est au fond le fait que pour qu'un corps puisse exercer une fonction, il faut qu'il y ait une âme qui l'informe. Descartes est au fond le premier, je crois, hein, et il sera presque le seul parce qu'il va être suivi par Malebranche de ce point de vue, dont je vais vous dire un mot, un seul, mais c'est tout. Tous les autres philosophes qu'on appelle post-cartésiens vont s'efforcer justement de remettre une âme dans le corps, ou plus exactement, de penser, si vous voulez, le corps et l'âme comme des systèmes autotéliques, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire comme des systèmes qui possèdent en eux-mêmes la loi de leur fonction ou de leur fonctionnement. Je ferme cette parenthèse sur laquelle je reviendrai peut-être un peu plus longuement plus tard à la fin de cet exposé pour vous dessiner un peu les grandes lignes de ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, la contre-révolution cartésienne, en quelque sorte, la contre-réforme. Hein. Mais bon, on verra, ou dans la discussion, on verra, selon le temps qui nous restera. Je reviens à Descartes pour justement souligner ce fait que le corps, chez lui, si vous voulez, n'a pas de fin en tant que tel, n'a pas de télos, si vous voulez, pour le dire en grec, en tant que tel. Il marche, au fond, indéfiniment. Et s'il n'y a pas de cause extérieure, de rupture, si vous voulez, de fonctionnement, ce serait comme le mouvement perpétuel. Hein. Au fond, il continuerait indéfiniment, si vous voulez, à fonctionner. Par conséquent, on ne peut pas dire, si vous voulez, que la mort, par exemple, soit quelque chose d'immanent à l'être vivant. C'est une idée d'ailleurs qu'on retrouve aujourd'hui, vous savez, à travers les théories un peu vagues, mais un peu bon, du transhumanisme. Hein. On retrouve cette idée finalement que la mort n'est pas nécessairement, si vous voulez, une fatalité, c'est-à-dire n'est pas quelque chose qui est immanent au vivant. On pourrait peut-être... Mais cette idée, on la trouve chez Descartes. On trouve chez Descartes l'idée que d'une certaine manière, on pourrait non seulement prolonger la vie, mais peut-être même la rendre cette vie indéfinie. Bien sûr, il sait bien que c'est pas possible, et surtout avec les moyens du bord. Il sait bien que c'est pas possible, mais il pense, si vous voulez, mais c'est pas de l'humanisme, c'est du mécanisme. Il pense, si vous voulez, que si quelque chose est mécaniquement bien fait, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. C'est le principe, si vous voulez, du mouvement perpétuel, ou c'est le principe d'inertie appliqué au corps vivant. Dès lors qu'un corps est en mouvement, il tend à rester dans cet état de mouvement indéfiniment. S'il est en repos, pareil, sauf s'il y a une rencontre avec des corps extérieurs. Par conséquent, vous voyez que la mort la rupture, si vous voulez, pour la mort, bon, si on peut parler de mort, intervient de l'extérieur. C'est comme la rupture de quelque chose, le choc d'un corps contre un autre. Hein. Une roue qui rencontre pas bien une autre roue, et puis pof, ça y est, ça casse. C'est pas plus que ça. Il n'y a pas, si vous voulez, chez Descartes, l'idée que la mort est connaturelle, en quelque sorte, à la vie, entendue au sens de emboîtement, assemblage d'organes en vue justement de la reproduction de l'organisme, de la reproduction et de la continuation de l'organisme. Mais il n'y a pas de volonté, si vous voulez, de vie. Il n'y a pas de vouloir vivre dans un corps. Il n'y a pas de conatus, c'est-à-dire d'effort pour demeurer ce qu'il est. Non, parce que ce serait remettre justement de l'esprit, en quelque sorte, dans le corps. Or, le corps, au fond, on pourrait le définir simplement comme ça, c'est le contraire de la pensée. Hein ? C'est le contraire de la pensée. Et la pensée, c'est le contraire du corps. Revenons à notre problème et réduisons la question à sa plus simple formulation. Qu'est-ce que c'est qu'un corps, pour Descartes ? Que ce soit cette bouteille, ces lunettes, cet ordinateur ou moi, ou vous aussi, hein, je ne fais pas de... C'est une chose étendue. Autrement dit, c'est quelque chose, si vous voulez, qui occupe un lieu et qui peut, au moins idéalement, se diviser parce qu'il est composé de parties. Célèbre formule cartésienne, partes, extra, partes. C'est qu'à un corps, des parties les unes hors des autres. Ce ne sont pas des parties emboîtées, ce ne sont pas, si vous voulez, des parties chaussées, pour ainsi dire, les unes dans les autres. Non, c'est les unes à côté des autres. C'est pour ça qu'au fond, le corps, chez Descartes, est plus un assemblage qu'un organisme. C'est plus un assemblage d'organes qu'un organisme. Ça ne change rien, en un sens, descriptivement. Mais ça change conceptuellement. Ça veut dire, si vous voulez, que il n'est pas besoin de supposer la présence d'une sorte de grand ingénieur, de grand monarque, de grande raison, pour parler comme Nietzsche, hein, dans le corps, pour que les choses dont le corps est composé, les organes, on va appeler ça pour aller vite, si vous voulez, marchent ensemble. C'est comme une voiture, si vous voulez, je suis désolé d'employer des choses aussi triviales que ça, c'est comme une voiture, au fond, qui pourrait marcher toute seule, d'ailleurs, on n'en est vraiment pas loin, qui pourrait marcher toute seule parce qu'elle est équipée de tout ce qu'il faut pour produire et conserver le mouvement de cette voiture. Il n'y a pas besoin de supposer, si vous voulez, une âme dans cette voiture. Et bien, il n'y a pas besoin non plus de supposer une âme dans le corps pour que le corps soit vivant, c'est-à-dire pour que le corps exerce ses fonctions. Mais ce corps, c'est un assemblage d'organes. Ça ne veut pas dire, si vous voulez, c'est un tas d'organes. Évidemment que si vous mettez en vrac, si vous voulez, des mains, des pieds, des jambes, etc., etc., vous n'obtiendrez pas un corps. Hein. Vous obtiendrez un tas d'organes. Hein. Il faut bien sûr les composer, ces organes, les mettre en rapport les uns avec les autres. De la même manière que dans une voiture, il faut mettre les roues dans un châssis, des essieux, etc., etc. Bon, voilà. Mais tout ça, c'est mécanique. Voyez, tout ça, c'est mécanique. Ça n'a rien de finaliste. Et ça n'a encore moins, si vous voulez, de spiritualiste. Par conséquent, on peut dire, si vous voulez, que chez Descartes, et je reviens sur l'idée avec laquelle j'ai commencé, chez Descartes, si vous voulez, le réel se divise en deux. D'un côté, il y a le réel étendu, le réel corporel, et de l'autre, il y a le réel intellectuel. Un sentiment, une douleur, un plaisir, une idée, un sentiment n'a pas de partie. Un sentiment n'est pas étendu. Il n'y a aucun sens à dire que de parler de la moitié d'une joie ou de la moitié d'une douleur. Hein. On peut peut-être parler d'une intensité, mais ça, c'est un peu autre chose. Bon. Mais il n'y a pas, en tout cas, aucun sens à parler d'un sentiment ou d'un état de l'âme d'un point de vue extensif, du point de vue d'une grandeur extensive. Hein, voilà. Donc, voilà ce qui distingue pour Descartes ce qui relève de l'âme de ce qui relève du corps. Ce qui relève du corps est en droit, en tout cas, toujours étendu, c'est-à-dire toujours divisible, hein, et ce qui relève de l'âme est indivisible, c'est-à-dire que ça se présente comme une seule chose. Voilà. L'âme est une, le corps est multiple, même si le corps est organisé. Ce qui veut dire, si vous voulez, que, bien sûr, le corps ne doit pas, si vous voulez, son organisation à l'âme, mais il la doit au programme qu'il a construit, c'est-à-dire à Dieu, qui a voulu faire le corps comme une machine. Mais ça veut dire aussi, si vous voulez, que, d'une certaine manière, l'âme n'intervient pas, si vous voulez, en tant que substance dans le fonctionnement du corps considéré comme une substance. Qu'est-ce que ça veut dire, une substance ? Une substance, traditionnellement, dans le vocabulaire philosophique, une substance, ça veut dire, si vous voulez, que c'est quelque chose qui subsiste par soi-même. Subsistance ou substance, vous pouvez considérer ces mots comme équivalents. Voilà, une chaise, c'est une substance pour Descartes, parce qu'elle peut être conçue par elle-même, alors que le pied d'une chaise, ce n'est pas une substance. Il a besoin d'être assemblé dans une chaise. Voilà. Bon. Donc, substance, c'est ce qui se tient par soi, et sinon, c'est un accident ou c'est un attribut, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit être rapporté à une unité réelle pour être, pour marcher, pour fonctionner. Donc, d'un point de vue substantiel, l'âme et le corps sont radicalement différents. Voilà le célèbre dualisme cartésien. C'est pour dire, si vous voulez, que... Mais vous voyez comment ce dualisme, il n'a rien au départ de métaphysique. C'est pas le dualisme platonicien, de l'âme comme tournée vers le divin et du corps comme tourné vers la terre. De l'âme comme ce qui est élevé, du corps comme ce qui est bas. Les instincts, les machins comme ça, hein, les pulsions, les... Non, rien. Le corps, si vous voulez, cartésien, il est neutre, éthiquement parlant. Il est ni bon ni mauvais, ni promis au péché ou à la grâce ou à la gloire. Il est comme une machine. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, il n'y a aucune malédiction, si je puis dire, qui pèse sur le corps, chez Descartes. Hein. Il n'y a pas de contemption, si vous voulez, du corps en tant que tel. D'ailleurs, il n'y a aucune. Bon. Bon. Donc, au fond, cette conception du corps comme une substance, c'est-à-dire quelque chose qui peut fonctionner, être par soi-même, d'une certaine manière, libère le corps de tout jugement normatif. Vous voyez ? Ce qui, et notamment à l'époque de Descartes, constitue déjà par soi-même une grande avancée. Parce que, au fond, traditionnellement, le corps, c'est quand même le lieu d'inscription du péché. Ce sont les inclinations, ce sont les pulsions, ce sont les... voilà. Hein, le corps a, pour ainsi dire, une mémoire de... a en lui une mémoire, si vous voulez, de la terre. C'est-à-dire de ce qui nous attire en tant qu'être charnel. Eh bien, il n'y a rien de tel chez Descartes. Hein, parce que, encore une fois, c'est comme une machine ou c'est comme une horloge. Et donc, il n'y a en lui aucune trace de bon ou de mauvais, de haut et de bas. Vous voyez, il n'y a aucune conception normative, si vous voulez, du corps. C'est une conception neutre, neutralisée. C'est extrêmement important. Et l'âme, de son côté. L'âme, la fonction de l'âme, pour Descartes, et c'est ce qui en fait une substance, n'est que de penser. Pas d'animer le corps, n'est que de penser. Et ça, c'est une thèse, si vous voulez, qui sera absolument constante chez Descartes, depuis le traité de l'homme, qui n'a pas été publié par Descartes, pour des raisons que je ne vais pas dire, hein, il n'a pas été publié par Descartes, mais il utilisera les travaux et les analyses dans le discours de la méthode, notamment dans la cinquième partie. La cinquième partie, c'est quasiment un résumé, si vous voulez, du traité de l'homme. Je vais y revenir dans un instant. Donc, depuis le traité de l'homme, 1630 à peu près, composé Descartes à 34 ans, il est né en 1596, jusqu'au traité Les passions de l'âme, 1649, Descartes meurt même pas un an après, en 50, jusqu'à un an, Descartes maintient, si vous voulez, cette thèse de la dualité ontologique, mais à mes yeux, elle est presque plus épistémologique qu'ontologique, du corps et de l'âme. Et si vous ouvrez le traité des passions de l'âme, hein, vous verrez justement que environ les 30 premiers articles, au fond, sont consacrés justement à montrer en quoi l'âme et le corps sont deux choses radicalement distinctes et qu'il ne faut pas attribuer à l'âme des fonctions qui sont des fonctions corporelles, pas plus qu'il faut attribuer au corps des fonctions qui sont des fonctions, au sens très large, intellectives. Mais très large. Hein. Parce que les passions, par exemple, c'est de l'intellection. Être en colère, aimer, haïr, désirer, être jaloux, être généreux, être orgueilleux, tout ça, si vous voulez, ce sont des modes de la pensée. Ce ne sont pas des états corporels. Hein. Voilà, on touche, si vous voulez, peut-être le problème le plus délicat, le plus difficile, celui dont on a dit, si vous voulez, que finalement Descartes s'en est débarrassé parce qu'il ne savait pas quoi en faire, hein, qui est le problème justement de l'union de deux choses aussi radicalement distinctes que l'âme et le corps. Parce qu'il ne suffit pas, comme dit Bergson, de tailler et de diviser, il faut recoudre d'une certaine manière. Hein. Donc, il faut essayer de voir comment, malgré la distinction radicale de l'âme et du corps, le corps machine, l'âme pensée, malgré tout, Descartes peut produire une théorie de l'union de l'âme et du corps. De l'union de l'âme et du corps. Et en quoi elle consiste, cette union ? Alors, d'abord, si vous voulez, je vais revenir sur une question trop rapidement, même pas trop rapidement, mais que je n'ai pas évoquée, et qui peut vous être utile. Sans aucun doute, peut vous être utile. C'est la question, si vous voulez, afférente un peu de la distinction entre un corps humain et un corps animal, entre un homme et un chien, si vous voulez. Au fond, voyez, je reviens à Aristote, toujours, il faut toujours. Pour Aristote, si vous voulez, la différence entre un chien et un homme, c'est la différence de forme substantielle. Et en un sens, il n'y a rien de commun, si vous voulez, entre un chien et un homme, en tant justement que ce sont deux formes substantielles parfaitement distinctes l'une de l'autre, la forme chien et la forme homme. Eh bien, pas pour Descartes, parce que d'une certaine manière, le corps animal et le corps humain fonctionnent de la même manière. Sont les uns comme les autres des machines, si bien que si un corps n'a pas ou n'est pas accompagné d'une pensée, d'une âme ou d'une raison, on pourra considérer l'être dans lequel est ce corps comme une machine. C'est la célèbre théorie, si souvent conspuée, des animaux-machines chez Descartes. Mais je ferme cette parenthèse car ce n'est pas l'objet de mon exposé aujourd'hui. Pas plus que Descartes ne dit que le corps est une machine, il ne dit que l'animal est une machine. Tout ce qu'il dit sur cette question, c'est qu'on peut beaucoup mieux comprendre le fonctionnement du corps si on le compare à une machine que si on essaye de le comprendre intérieurement, si je puis dire, hein, par une sorte d'intuition ou d'expérience immédiate. Donc le modèle s'interpose. De la même manière, il dit qu'au fond, rien ne nous permet de distinguer extérieurement les actions d'un animal de celles que ferait une machine extrêmement perfectionnée et qui aurait été conçue à l'imitation justement de l'animal. Rien ne nous permettra parce que finalement, il manquera toujours à l'animal, si toutefois c'est un manque, ce que ne dit même pas Descartes, la possibilité, si vous voulez, de s'exprimer, de parler, d'échanger un propos avec quelqu'un. Ce n'est pas simplement de proférer des mots, mais d'entrer en relation, de dialogue, même minimal, si vous voulez, avec quelqu'un. Et ça, Descartes dit, c'est quand même curieux que parmi tous les animaux, et il y en a des beaucoup plus doués que d'autres, il n'y en ait pas un seul qui parle, alors que parmi les hommes, et il y en a qui sont, hélas, beaucoup moins doués que d'autres, il n'y en a pas un qui ne parle pas. Ce qui montre, si vous voulez, que ce n'est pas une question de plus et de moins entre l'animal et l'homme, mais c'est une question de nature différente. C'est le sens de la cinquième partie du discours de la méthode. Et de provoquer un test pour voir comment on pourrait distinguer un faux homme d'un vrai et un faux animal d'un vrai animal. Bien, un homme, si vous voulez, qu'un ingénieur extraordinairement, d'ailleurs, que sans doute aujourd'hui on peut imaginer, encore mieux que du temps de Descartes, pourrait fabriquer un homme artificiel qui aurait exactement... Enfin, la gestualité, la figure, la physionomie, etc., les organes d'un homme réel, si je puis dire. Qu'est-ce qui permettrait de distinguer ? Descartes dit, au fond, il faudrait interroger. C'est un peu comme le test de Turing, vous savez, de la machine de Turing. Il faudrait interroger, au fond, la machine pour savoir si elle peut parler et répondre au sens de ce qu'on lui dit au moment où on lui dit, pas une programmation. Au moment où on lui dit, hein, c'est-à-dire voilà, aller dans un distributeur de billets de temps et demander lui s'il va bien. Oui. Pas de combien de billets vous avez besoin, ni de quel type de coupure, etc. Non, parce que ça, il sait répondre à ça. Il est programmé pour ça. Mais s'il va bien, ça fait longtemps qu'il est là, hein, quel temps il fait, voilà, des choses comme ça. Voilà. C'est ça la distinction entre une machine et un homme. C'est au fond un être qui peut répondre de ce qui lui est demandé dans un sens qui justement présente un sens, hein, d'une manière qui présente un sens. Alors que, au fond, si on construisait des animaux de telle manière qu'ils imitaient le plus possible les animaux réels, nous n'aurions peut-être pas de moyens justement de les distinguer. Et ici, la nature et l'artifice ne feraient qu'un. Et on voit bien pourquoi ça ne ferait qu'un, puisque finalement Descartes demande à l'artifice, c'est-à-dire au mécanisme, à la machine, de lui donner la matrice d'intelligibilité, justement, du fonctionnement du corps. Donc, vous voyez, la boucle est bouclée. Bon. Mais de ce fait, le problème de l'homme demeure en un sens entier pour la raison que l'homme demeure un être singulier dans l'univers. D'une certaine manière, l'homme, si vous voulez, est le seul être qui, en lui-même, enferme, si vous voulez, un corps et une âme. Or, on a vu, si vous voulez, que c'était sur cette distinction qu'était fondée toute la philosophie cartésienne. La distinction du corps, machine, de l'âme, pensée. Or, l'homme, et Descartes le sait comme tout le monde, l'homme, c'est pas un corps plus une âme. L'homme, c'est, dit Descartes à la fin des méditations, lorsqu'il aborde ce problème justement du composé, comme on dit, l'homme, c'est un mélange, permixio en latin, hein, un mélange de l'âme et du corps. Autrement dit, dans l'homme, l'âme et le corps ne se disposent pas, si vous voulez, comme des territoires qui seraient limitrophes, qui seraient voisins, mais qui ne se mélangeraient pas. Non, il n'y a pas de territoire dans l'homme. Au fond, tout est, on pourrait dire les choses comme ça, si vous voulez, tout aussi bien corporel que intellectuel, d'une certaine manière. Hein. Autrement dit, bon, on va revenir sur cette question. Je la reprends de façon un peu plus progressive. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que le dualisme n'est pas contradictoire avec l'union substantielle de l'âme et du corps, mais qu'il en est la condition de possibilité. Autrement dit, pour savoir comment l'âme et le corps sont unis, il faut savoir ce qu'ils sont naturellement, c'est-à-dire ce que représente l'idée de chacune de ces deux choses, le corps et l'âme. Pourquoi ? Afin justement de ne pas confondre les fonctions de l'un avec les fonctions de l'autre. Bon, j'ai dit tout à l'heure que ce qui était essentiel, si vous voulez, chez Descartes, c'est la distinction substantielle. La distinction substantielle, ça veut dire qu'il faut rapporter chacun des modes, hein, de la chose, chacun des modes de la chose à la substance dont tel est le mode. Hein, dont il est le substance, dont il est le mode. Oui, le mode, c'est singulier. Bon, dont il est le mode. Donc je maintiens cette formulation. Par exemple, je rapporterai, si vous voulez, le sang, les veines, les humeurs, je les rapporterai au corps. Parce que je ne peux pas concevoir ces choses-là sans un corps dans lequel elles résident, toutes ces parties corporelles. En revanche, un sentiment comme la douleur, le plaisir, la joie, la tristesse, ça n'aurait pas de sens, si vous voulez, de les rapporter au corps. Un corps étant lui-même, ou par lui-même, non sensible. Autrement dit, on peut briser un os, hein, mais ce n'est pas parce qu'on brise un os que l'os, si vous voulez, est blessé. Seul peut être blessé celui qui a conscience d'avoir un corps. Mais le corps n'étant pas justement conscient de lui-même, le corps étant une machine, hein, ne peut pas, si vous voulez, être dit blessé ou on peut simplement dire qu'il est endommagé ou pas, comme une machine. Vous voyez ? On reprend la célèbre métaphore, la célèbre image que Descartes reprend à la tradition, il ne l'invente pas, du pilote et du navire. Quelle est la relation entre le pilote et le navire ? Quand le navire prend de l'eau ou une avarie, quelque chose comme ça, bon, il heurte un écueil, ça va mal. Et le pilote est très inquiet pour son navire. Mais il ne reçoit pas, il ne ressent pas, si vous voulez, dans son être propre, l'endommagement du navire. Il considère que c'est vraiment quelque chose de très embêtant, surtout s'il est seul dans l'eau, etc., etc. Bon, tout ça, hein, vous voyez. Mais il les regardera, si vous voulez, il observera l'endommagement du bateau, par exemple, hein, de l'extérieur. Hein, un peu comme un spectateur ou un observateur. Il pourra considérer que c'est grave pour lui, mais il ne le ressentira pas. Hein, il le connaîtra, il ne le sentira pas. Hein. Eh bien, inversement, si vous voulez, on voit alors que ces sentirs qui caractérisent justement le fait de l'union de l'âme et du corps, ce n'est pas connaître. Hein. Car je peux connaître un ange, saint Thomas semblait savoir bien comment ça marchait, ces choses-là, un ange regarde une blessure de l'extérieur. Il ne la sent pas. Il n'a pas un corps susceptible, justement, de pâtir de cette blessure. Un homme, oui. Hein, un homme, oui. Parce que, justement, l'âme et le corps d'un homme, si vous voulez, ne sont pas extérieurement reliés, comme un pilote dans un navire, comme un lecteur avec un livre ou avec un message, mais ils sont intimement liés. Voilà. Quand vous lisez un livre... Hein, lecteur, ça c'est une image, c'est moi qui la prends cette image, c'est pas Descartes. Quand vous lisez un livre, vous pouvez évidemment sentir des tas de choses relatives au personnage dont vous lisez les péripéties, mais vous ne les sentirez pas. Vous pourrez les éprouver mentalement, mais vous les sentirez pas dans votre corps, comme on dit. Hein, vous les sentirez pas dans votre corps, parce que justement, vous n'êtes pas couplé, si je puis dire, au corps du personnage. Hein. Donc, il y a, si vous voulez, cette différence entre le pilote et le navire, et l'homme, il y a cette différence, si vous voulez, que, d'une certaine manière, dans l'homme, l'âme et le corps sont indissociables. Et indissociable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que ça interagit continuellement. Hein, voilà. Descartes dit, il y a deux choses qu'il faut savoir sur l'âme, ou il y a deux choses qu'on sait sur l'âme. Après tout, on ne sait pas énormément. Il y a deux choses. Un, c'est qu'elle pense. L'autre, c'est qu'elle est de telle nature à pouvoir être unie avec un corps, c'est-à-dire agir ou pâtir, action ou passion. Action, je prends cette bouteille, hein, je la lève, mon corps, mes mains, mon bras obéissent à ma volonté. On peut discuter, hein, ça, mais en gros, c'est là. Encore faut-il qu'il y ait un corps en bon état. Encore faut-il que la machine marche. Hein, parce que si je ne peux pas donner des ordres à une machine défectueuse. Je ne peux pas dire à une horloge, donne-moi l'heure. Hein ? Une horloge en panne. Hein ? C'est de la magie. Les enfants font ça, mais pas les adultes en général. Hein ? En général. Bon. Donc, on ne commande pas une machine. Hein ? On l'utilise. C'est pour ça que, d'une certaine manière, j'utilise la machine de mon corps. Je ne la commande pas. Autrement dit, j'utilise. Dieu a programmé notre âme de telle manière que telle pensée de l'âme, par exemple « j'ai soif », est liée, va être la cause de tel mouvement du corps, c'est-à-dire je vais porter ma main sur la bouteille et je vais lever la bon, etc., et je vais boire. Bon. Voilà. Donc c'est, en un sens, c'est aussi une programmation. Hein, c'est aussi une programmation. Mais vous voyez ici, si vous voulez, la différence qu'il y a entre, c'est un tout petit peu, bon, mais en l'expliquant, ça va être très simple, la différence qu'il y a entre l'appartenance substantielle, c'est-à-dire le fait de référer un mode à sa substance. L'eau a un corps, la douleur à l'âme, voilà, tout simplement, le plaisir à l'âme. Et la causalité. Entre l'attribution substantielle, si vous voulez, et la causalité. Ça n'est pas parce que, mettons, la douleur est un mode de l'âme, autrement dit, seule une âme, autrement dit, seul un être qui pense peut souffrir, c'est-à-dire avoir la conscience de la douleur, ça n'est pas pour ça que la douleur n'est pas causée par quelque chose d'autre que l'âme. Et cet autre, c'est le corps. Autrement dit, la distinction substantielle n'empêche nullement, si vous voulez, l'interaction causale. L'action causale d'une substance sur une autre. Ce qui est métaphysiquement difficile à penser. Mais ce qu'il faut penser pour penser l'union de l'âme et du corps. En un sens, l'union du corps, c'est un défi à la métaphysique. Parce que ça nous force à penser, si vous voulez, l'action d'une substance de nature différente sur une autre substance. La substance âme sur la substance corps. Comment deux substances de nature différente peuvent-elles agir ensemble? Pour Descartes, si vous voulez, ce n'est pas notre problème. Hein, ce n'est pas notre problème. Autrement dit, c'est un fait. Hein, mais ce n'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose, si vous voulez, dont nous pouvons remonter aux raisons. Hein. Ces raisons, elles appartiennent au créateur, à celui qui a institué les choses de telle manière que ça fonctionne comme ça. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est constater justement le fonctionnement couplé de l'âme et du corps. Et dans ce fonctionnement couplé de l'âme et du corps, à la limite, si vous voulez, la distinction de l'âme et du corps devient purement fonctionnelle et n'est plus substantielle. Merci. Fonctionnelle, ça veut dire quoi? C'est l'idée que je présentais tout de suite, là, et sur laquelle je vais revenir un petit peu. Ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a dans l'homme, dans chacun de nous, hein, on va maintenant penser que nous sommes des hommes et pas des corps automates, des esprits séparés des corps, mais des vrais hommes, comme dit Descartes, c'est-à-dire l'âme et le corps absolument unis, per mixio. On ne peut pas utiliser un terme plus fort que celui-là en latin, hein, dans la sixième méditation, mélanger. Per mixio, c'est là, comme mélanger. Donc, l'interaction, si vous voulez, du corps et de l'âme, c'est au fond un problème de localisation. C'est-à-dire que je sens en moi des choses, si vous voulez, qui viennent à ma conscience, mais sans que ma conscience les génère, si je puis dire. Je peux engendrer des idées. Je peux concevoir l'idée de Dieu, l'idée de triangle, etc. Et là, il ne semble pas, si vous voulez, que j'ai besoin d'une impulsion corporelle pour ça. L'esprit fonctionne tout seul. Mais quand j'ai mal, quand j'ai faim, quand j'aime, quand je parle, quand je parle tout simplement, hein, au fond, on voit ici, si vous voulez, qu'il y a comme une information du corps par l'âme. Autrement dit, l'âme transmet en quelque sorte au corps des informations qui lui sont nécessaires, de la même manière que le corps transmet à l'âme des informations qui lui sont nécessaires. Voyez ? Et donc, il n'y a pas de finalité dans l'âme et dans le corps seul, mais il y a une finalité dans l'union de l'âme et du corps. Et cette finalité, c'est le fait que, justement, chacune de ces deux substances travaille pour l'autre, si je puis dire. Hein ? Le mot n'est pas adéquat, n'est pas heureux. Travaille pour l'autre, ça veut dire, si vous voulez, utilise l'autre. Hein ? L'âme utilise le corps dans les mouvements volontaires. Le corps utilise l'âme, par exemple, pour l'avertir d'un danger, pour l'avertir d'un plaisir, l'avertir de quelque chose de perçu, d'une menace. Bon, enfin, c'est-à-dire que c'est un échange d'informations, hein, l'union de l'âme et du corps. Continuellement, si vous voulez, une des deux substances envoie à l'autre les messages nécessaires pour la conservation du tout, pour que le tout soit conservé. Parce que l'idée essentielle ici, c'est ni l'idée de l'âme, ni l'idée du corps, mais l'idée du tout que l'âme et le corps forment ensemble. C'est ça l'idée directrice. Et donc, l'union substantielle, d'une certaine manière, dépasse la distinction substantielle, voire même l'annule, cette distinction substantielle, au profit de l'idée d'une totalité, d'une unité, etc. Alors, c'est ici qu'il faut être un petit peu plus radical, en un sens, dire ceci, que, d'une certaine manière, il n'y a rien de commun entre le corps considéré comme une machine, hein, tel que l'ingénieur, tel que le médecin, tel que l'anatomiste peut le décrire. Regardez par exemple le début dans la deuxième méditation. Quand Descartes se dit, la deuxième des méditations, donc on ne sait pas si on existe, on ne sait pas si on a un corps, on ne sait rien. Voilà. Et on essaye de savoir un tout petit peu quelque chose. Bon. Descartes dit, qu'est-ce que j'entends par le corps ? Très curieusement, il dit, par le corps, j'entends au fond quelque chose d'étendu, comme on le voit dans un cadavre. Alors, c'est quand même incroyable. Il veut chercher à savoir ce qu'est le corps, le modèle qui lui vient à l'esprit, ou l'image qui lui vient à l'esprit, c'est celle d'un cadavre. Oui, il y a une raison pour ça. Parce que dans le cadavre, si vous voulez, le corps est pour ainsi dire étalé. Hein ? Vous voyez ? Il n'y a plus de mystère dans le cadavre, si je puis dire. Hein ? On sait où toutes les choses sont, si on anatomise et on anatomise. C'est l'époque de l'anatomie. C'est le début de l'anatomie. C'est Vésale, un peu avant Descartes, et c'est évidemment tous les grands médecins qui vont découper, diviser le corps humain de telle manière à montrer. Descartes était très très intéressé par l'anatomie. Il faisait venir chez lui des animaux morts, ouais, on peut l'espérer, pour les disséquer et savoir comment ça marchait, comment était la fonction. Vous connaissez peut-être la célèbre anecdote. Quelqu'un rentre chez Descartes, je ne sais plus si c'est à La Haye ou à Amsterdam, et s'étonne de ne trouver aucun livre dans sa bibliothèque. Et Descartes l'emmène dans son atelier et lui dit, voilà, le livre, Vitellus apertus, un veau qui était en train d'être disséqué. Voilà le livre. Voilà où j'apprends les choses. Dans les choses de la nature, pas dans les choses de livresques. C'est le livre de la nature ou la nature comme livre. Je ferme cette parenthèse ou cette anecdote. Donc, je reprends. C'est comme un cadavre. Mais le cadavre, au fond, finalement, rend le corps beaucoup plus lisible parce qu'on voit son architecture discontinue. Hein ? On voit que les organes sont placés les uns à côté des autres. Voilà. Ce qu'un cadavre permet. On n'a pas besoin de vie, bon, puisqu'il n'y a plus de vie, là, donc on a les organes, les uns. Autrement dit, ce qui caractérise le corps en tant que corps, c'est les parties les unes hors des autres, ou c'est, encore une fois, sa divisibilité. Autrement dit, Bon, peu importe. Voilà, c'est sa divisibilité. Voilà, c'est le fait que c'est quelque chose qu'on peut diviser. Qu'est-ce qui caractérise le corps humain ? Non pas le corps machine, mais le corps humain. Et qu'est-ce que c'est que le corps humain ? C'est le corps d'un homme. Et quelle est la caractéristique du corps d'un homme ? C'est que c'est un corps qu'on peut dire mien, que par un certain droit particulier, j'appelle mien. Meum corpus, dit la sixième méditation. Meum corpus, mon corps. Eh bien, ce corps qui est le mien n'a rien à voir avec le corps machine. À la limite, si vous voulez, ce sont deux mots homonymes. Ce sont des homonymes. Le corps comme machine et le corps comme mien. Le corps comme mon corps. Et au fond, vous voyez, on raille souvent le dualisme cartésien en disant Descartes a coupé l'homme en deux, etc. Si on veut, il y a effectivement d'un côté l'âme, d'un autre côté le corps. Mais ce qu'on oublie de dire, si vous voulez, c'est que Descartes, non seulement a cousu, si je puis dire, l'âme avec le corps, mais ou plus sérieusement, si vous voulez, il a montré l'unité foncière de l'être humain. Autrement dit, si vous voulez, il n'y a pas de schizophrénie chez Descartes. Hein, mon corps ne se balade pas d'un côté et mon esprit de l'autre. Hein. Je suis mon corps, d'une certaine manière. Et d'une certaine manière aussi, mon esprit est corporel. Mon corps est le mien, et mon esprit est corporel au sens où il ne se sépare pas du corps auquel il est uni. C'est ça une union. Une union, c'est une indivision. C'est une indivision. Par conséquent, le caractère premier, distinctif du corps humain en tant que c'est mon corps, hein, c'est qu'il est un et donc indivisible. Autrement dit, on peut me couper la main, ce sera toujours, non pas le même homme, ça on n'en doute pas, mais le même corps. Mais le même corps. Pourquoi ? Parce que l'unité du corps, c'est une unité fonctionnelle, c'est une unité projective. En langage phénoménologique, on dirait, si vous voulez, que c'est une unité intentionnelle. C'est une unité intentionnelle. Autrement dit, pourquoi mon corps est toujours mon corps et toujours le même corps ? Même si, par malheur, on a à me couper un doigt, une main, une jambe, par accident, etc. Pourquoi je dirais que c'est le même corps ? Parce que l'âme le vise comme le sien. Parce que ma pensée le vise comme le sien. Elle va dire, effectivement, c'est quand même mieux d'avoir deux mains que d'en avoir qu'une seule. C'est un problème, si vous voulez, fonctionnel, un problème pratique. Mais ce n'est pas un problème d'identité. Ce corps sera toujours le mien. Dès lors que je le viserai comme tel. Dès lors, si vous voulez, que je le vis comme tel. Et donc, en ce sens, si vous voulez, il y a une rupture complète entre le corps vu de l'extérieur, celui que l'anatomiste, le savant, le médecin, pourquoi pas, voit, observe, ausculte, décrit, analyse, et mon corps, c'est-à-dire le corps dont je vis l'unité au-dedans de moi-même. On pourrait appeler ça, si vous voulez, un corps intérieur. C'est-à-dire c'est un corps qui ne se voit pas. C'est un corps qui ne s'expose pas. C'est un corps qui ne se donne pas. C'est un corps qui ne s'échange pas, etc., etc. Problème très actuel. Au fond, ça revient à dire, si vous voulez, qu'on ne peut pas mettre son corps en dehors de soi. Bon, si je vais voir un médecin, peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai, ce que je dis là. Mais j'ai tendance à le croire quand même. Si je vais voir un médecin, si vous voulez, ce que le médecin va examiner, ce n'est pas mon corps, c'est le corps humain. Enfin, dans l'échantillon que je représente du corps humain. Mais c'est le corps que le médecin observera, ce n'est pas mon corps. Mon corps, d'une certaine manière, il n'y a que moi, si vous voulez, pour le savoir comme étant justement le mien. En ce sens, si vous voulez, mon corps n'est pas objectivable. Et c'est pour ça que, au fond, quand aujourd'hui on a tendance quelquefois à mettre son corps en... à donner à son corps, si vous voulez, une sorte de visibilité. Oui, je veux bien que le corps soit visible, mais à la limite, à condition qu'il soit détaché de moi, ou que je me sois détaché de lui, ben, c'est une situation quand même de schiz. C'est-à-dire que d'un côté, si vous voulez, je suis, j'existe, et de l'autre, il y a mon corps que j'expose, que je donne, comme un jouet, comme un objet. Non, justement, le corps cartésien, le corps humain, ce n'est pas un objet. Il ne peut jamais être objet. Donc je ne peux jamais, si vous voulez, le présenter comme un objet. C'est pour ça que le corps objet, c'est le cadavre. Ce n'est pas le corps d'un homme. Mais il est essentiel d'avoir recours à un corps objet pour savoir comment ça marche. Mais le fait que savoir comment ça marche n'est pas en continuité avec le fait de savoir que c'est mien, que c'est le mien. Donc vous voyez, je ne peux pas m'étendre davantage. D'abord, tu me dis si je peux encore prendre un quart d'heure, mettons. Ça va, c'est pas bon. Parce que, comme ces cas-là, j'essaierai de faire quelques prolongations, ça c'est au football, mais quelques prolongements sur cette question justement, cette question notamment de l'union de l'âme et du corps. Oui, alors ce que je voulais pour récapituler ou résumer, c'est justement de bien marquer, si vous voulez, la différence entre le corps de la science, le corps que la science connaît, et au fond, grâce à Descartes, la science peut s'attaquer au corps en tant que corps, hein, et pas imaginer des petites âmes dans le corps, hein, mais montrer comment ça fonctionne. Bon. Au fond, le corps comme mien. Ce qui veut dire, au fond, que chez Descartes, si vous voulez, il ne peut pas y avoir de dépersonnalisation du corps. Hein. Il ne peut pas y avoir de mise à l'extérieur, au fond, du corps, parce que ce corps, il est mon corps. Et donc, le caractère distinctif du corps de la science, c'est qu'il est divisible. Le caractère distinctif du corps vécu, c'est qu'il est mien. C'est que c'est le mien. Et ce n'est pas une propriété, si vous voulez, au sens où un terrain est ma propriété ou ma maison est ma propriété. C'est beaucoup plus intime que ça. Hein? C'est beaucoup plus intime que ça. C'est pas, si vous voulez, l'habeas corpus, hein, qui, un peu après Descartes, va apparaître comme étant justement une dimension essentielle de la liberté, hein, le fait de posséder son corps. Mais justement, le corps de l'homme, c'est pas un corps que l'homme possède, c'est un corps que, d'une certaine manière, il est. Il est son corps, plus qu'il a son corps. Il est son corps. Ce qui veut dire que ce qui se passe dans le corps, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui est indifférent à l'âme. Vous voyez ? Ce n'est pas le stoïcisme. Hein ? Ce n'est pas le stoïcisme. Ce n'est pas Anaxarque, si vous voulez, qui dit à son bourreau, attention, si tu continues de tordre la jambe dans ce sens, tu vas la casser. Et l'autre, il continue. Et la casse. Et tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit ? Elle est cassée. Autrement dit, si vous voulez, Anaxarque a un corps, si je puis dire, en complète extériorité. Il regarde son corps comme moi je regarde le micro. Hein. Et je veux dire, ah ben non, attention Jean, tu vas le faire tomber le micro. Hein. Voilà, qu'est-ce que je t'avais dit. Hein. Voilà, non. Voilà. Alors ça, c'est une pure fiction pour Descartes. Hein. Et non seulement c'est une fiction, au sens où c'est pas réalisable, mais c'est pas souhaitable, c'est pas envisageable de mettre d'une certaine manière son corps en dehors de soi. Non, son corps c'est soi. Et par conséquent, tout ce qui arrive à mon corps, la douleur, les choses comme ça, si vous voulez, la maladie, me concerne, moi. Donc vous voyez qu'il ne peut pas y avoir dans le cartésianisme une dualité éthique entre l'âme et le corps. Hein ? Il ne peut pas y avoir dans le cartésianisme, si vous voulez, une dualité normative de l'âme et du corps, comme il y a dans le christianisme. C'est-à-dire au même moment, bon, excusez-moi, j'ai oublié de fermer le truc, bon, il ne peut pas y avoir de dualisme éthique ou de dualisme normatif. Au même moment où Descartes construit sa théorie, développe sa théorie, on voit apparaître des philosophies, si vous voulez, inspirées par le christianisme et qui reposent justement sur non seulement la hiérarchie de l'âme et du corps, mais sur, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, en langage hegélien, l'extranéation du corps. C'est-à-dire le fait que le corps devient étranger à l'âme, devient presque un autre indésirable, un personnage avec lequel, si vous voulez, on a continuellement maille à partir. Lisez Malebranche, lisez Pascal, vous verrez, si vous voulez, que c'est quand même un peu dans cet horizon que se pense le dualisme cartésien. Car ce sont des penseurs qui héritent du dualisme cartésien, Pascal et Malebranche. Mais ils font du dualisme cartésien, ou plus exactement, ils trouvent occasion, dans le dualisme cartésien, d'édifier, au fond, un dualisme éthique. C'est-à-dire, finalement, une contrariété. L'homme, c'est un être, au fond, déchiré par une contrariété. D'un côté, il a des penchants coupables, et d'un autre côté, il a quand même des aspirations aimables. Voilà, et il est tiraillé par les deux. Rien de tel dans le cartésianisme. Parce qu'on ne peut pas mettre dans l'homme, si vous voulez, une partie de l'homme d'un côté et une autre partie de l'homme. L'homme est tout entier dans ce qu'il fait. Voilà. Il boit, il a mal, il fait des mathématiques, il construit une... C'est, en un sens, toujours lui qui agit, c'est-à-dire l'ego. Mais cet ego, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose de désincarné. C'est quelque chose qui a, en un sens, un corps, c'est-à-dire finalement une réalité. C'est-à-dire finalement une réalité. Bon. Je laisse de côté, beaucoup de choses, hein, je laisse de côté, si vous voulez, le versant, si vous voulez, enfin, le chrétien de philosophie de Descartes, Pascal, Malebranche. Je vous avais dit que je vous dirais quelque chose de Malebranche, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, bon, c'est simplement anecdotique. Malebranche, qui est un prêtre de l'oratoire, n'avait pas de vocation particulière à faire de la philosophie. Un jour, il découvre chez un libraire, il est assez jeune, il a 25 ans à peu près, chez un libraire, le traité de Descartes de l'homme, le traité de l'homme, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui vient d'être édité, publié, et Malebranche dit, c'est lui qui le dit cette fois, hein, qu'il n'a pas pu lire ce texte sans être pris de tremblement, de frémissement, de joie, d'admiration, de sorte de, d'avoir découvert, si vous voulez, quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a découvert d'extraordinaire? C'est pas simplement que le corps est une machine. Mais, et ça c'est Malebranche et pas Descartes qui le dit, c'est que le corps n'est qu'une machine. Hein, et qu'au fond, si vous voulez, il n'y a pas besoin de supposer quelque âme dans le corps, quelque esprit ou quelque tendance ou quelque inclination. Le corps, c'est de la matière. Par conséquent, l'esprit ou l'âme, c'est justement le contraire de la matière. Et au fond, Malebranche va inverser ou gauchir le dualisme cartésien, qui est un dualisme substantiel, dans un dualisme de la contrariété. Ce ne sont pas des natures distinctes, ce sont des natures opposées l'une à l'autre. Le corps est le contraire de l'âme, ce n'est pas autre chose que l'âme. L'âme est le contraire du corps. D'où, bon, vous voyez, entre des contraires, ben, la relation elle est souvent une relation de contrariété, de lutte, de conflit, voilà. Et c'est pour ça, bon, etc., etc. Je ferme cette parenthèse. Mais vous voyez comment le cartésianisme a pu inspirer une philosophie spirituelle ou spiritualiste, si vous voulez, alors que lui-même, à mon avis, il ne l'est en aucune manière. Ça ne veut pas dire que je tire des cartes du côté du matérialisme, mais ni du matérialisme, ni de l'idéalisme. Hein ? Mais voilà, bon, c'est une doctrine originale, voilà. Et c'est une doctrine originale, au fond, dont on peut retrouver des échos, puisque Jean l'a cité, dont on peut retrouver des échos chez des phénoménologues contemporains, enfin du XXe siècle, comme Merleau-Ponty, par exemple. Merleau-Ponty doit beaucoup de sa propre théorie du corps propre, je vais en dire un mot, à Descartes, hein, à sa lecture de Descartes. Bon, voilà. Alors, je vous avais dit des prolongements, et non pas des prolongations. Des prolongements à à ce rapide exposé, si vous voulez, sur le dualisme et l'union de l'âme et du corps, dont je vous ai donné vraiment extrêmement schématiques, les axes les plus saillants, enfin, qui me semblent, moi, les plus saillants. Alors, au fond, Si on enlève, donc, si on laisse de côté Pascal et Malebranche, donc dire plutôt chrétien, et si on considère les plus grands philosophes post-cartésiens, qui sont Spinoza et Leibniz, indiscutablement. On voit ceci, que la critique qu'ils ont faite de Descartes, l'un comme l'autre, ne porte pas sur le dualisme substantiel, ne porte pas sur l'idée que l'âme est distincte du corps ou que l'âme est pensée, le corps est étendu, mais porte sur la conception de l'union de l'âme et du corps, c'est-à-dire sur le mélange effectué par Descartes entre deux substances radicalement distinctes comme le sont l'esprit et le corps. Alors, un mot sur chacun de ces deux grands philosophes, dits cartésiens, moi je crois qu'ils ne le sont absolument pas, mais bon, un mot sur chacun d'eux, et puis éventuellement, si vous avez des questions, on pourra revenir dans le cadre d'une discussion, etc. Je ne voulais pas prolonger au-delà de l'heure légale du coucher du soleil la discussion sur ce point. Donc un mot simplement. Ce qu'il faut retenir, s'il n'y a qu'une chose que vous devez retenir sur Spinoza en rapport avec la question du corps, c'est que justement, Spinoza récuse l'idée d'une action réciproque de l'âme sur le corps ou du corps sur l'âme. Pourquoi ? Parce qu'une chose qui est d'une nature telle ne peut pas agir sur une autre qui est d'une autre nature qu'elle. Pour agir, il faut d'une certaine manière posséder la même nature. Et donc, l'âme et le corps ne peuvent pas agir l'un sur l'autre. Il faut même aller plus loin et dire que l'âme et le corps, c'est deux façons de dire la même chose, mais dans deux langages différents. L'âme, dit Spinoza, c'est l'idée du corps. Ça veut dire, si vous voulez, c'est le corps en tant qu'il est pensé. Le corps étant d'une certaine manière l'âme en tant qu'il est étendu. Mais entre le corps, mode de l'étendu, et l'âme, mode de la pensée, il y a, si vous voulez, une correspondance parfaite. Autrement dit, si vous voulez, tout état du corps est immédiatement converti en un état de l'âme. Mettons, tout mouvement dans le corps se traduit dans l'âme par une idée dans l'âme. Si bien qu'il n'y a pas de causalité à évoquer entre l'âme et le corps, mais ce que Leibniz appellera à propos de Spinoza un parallélisme. Un parallélisme entre les attributs du corps, les modes du corps, les états du corps, et les attributs, les modes et les états de l'âme. Donc, au fond, c'est une correspondance, qui est évidemment interdit de penser que l'une puisse agir sur l'autre, ce qui évacue toute idée d'une action de la volonté sur le corps. C'est surtout ça que Spinoza veut atteindre. L'idée, justement, qu'on peut, par un libre vouloir, modifier quelque chose de corporel. Hein ? Voyez ? C'est pas parce qu'on veut marcher qu'on marche, mais c'est parce que, d'une certaine manière, à l'idée de marcher ou à la représentation de marcher, va correspondre à un mouvement simultané du corps. C'est ça que ça veut dire, que l'âme est l'idée du corps, et seulement ça, dit Spinoza. L'âme est l'idée du corps, et seulement ça. C'est pour ça que Spinoza peut se poser la question, qui à mon avis fera l'objet d'au moins la moitié des sujets de dissertation des concours portant sur le corps, peut se poser la question, la célèbre question, qu'est-ce que peut un corps ? Hein ? Qu'est-ce que peut un corps ? Dit Spinoza, dans la partie 2 de l'éthique. Qu'est-ce que peut un corps ? Qu'est-ce qu'il entend par cette célèbre formule ? Qu'est-ce que peut un corps ? Il entend ceci, c'est qu'au fond, on ne sait pas, d'une certaine manière, jusqu'où peut aller la puissance du corps. On ne la connaît que moyennement, si je puis dire, que dans son état moyen. Si bien que la grande distinction chez Spinoza, ce n'est pas finalement la distinction du corps et de l'âme, puisque cette distinction, elle disparaît d'une certaine manière, au sens où l'un devient le reflet, le symétrique ou le parallèle de l'autre. Ce n'est pas cette distinction, c'est la distinction, si vous voulez, entre les degrés d'action ou de puissance d'un corps et d'un autre. Au fond, pour Spinoza, si vous voulez, il n'y a pas le corps, il y a des corps. et dont la différence est une différence d'action ou de puissance. La grande différence chez Spinoza, ce n'est pas la différence de l'âme et du corps, c'est la différence de la puissance. Et au fond, un corps est ce qu'il peut être, et tout ce qu'il peut être. On a là, si vous voulez, une conception dynamique du corps, qui est complètement différente de ce qu'on pourrait appeler la conception statique de Descartes. Parce que pour Descartes, le corps est une chose étendue, divisible. Mais justement, l'étendue spinoziste, ce n'est pas l'étendue cartésienne. Ce n'est pas une étendue divisible. C'est une étendue intensive. Et par conséquent, si vous voulez, le corps n'est pas une machine, mais on pourrait appeler ça, si vous voulez, un désir, une force, un mouvement pour aller plus loin. Au fond, on pourrait appeler ça, comme Spinoza l'a appelé, un conatus, un effort, pour persévérer, justement. Donc, il y a, si vous voulez, dans le corps, comme une sorte de pensée qui fait que le corps sait où il doit aller de lui-même. Il n'a pas besoin de l'âme pour ça. Donc, il y a l'idée, si vous voulez, non pas d'un automatisme du corps, mais d'une autonomie du corps, ce qui est une idée bien différente. Je ferme cette parenthèse, ce premier point. Leibniz, qui est anti-spinoziste, qui est récuse, bon, tout ça, très bien, parce que Leibniz, c'est... Bon. Très grand philosophe, évidemment. Mais, au fond, il arrive aux mêmes conclusions que Spinoza. C'est-à-dire que le dualisme cartésien qui finit par se plonger dans la mer ou dans l'océan ou dans la nuit dans laquelle toutes les vaches sont noires de l'union substantielle, c'est pas possible. C'est pas possible de suivre cette voie. Il faut donc, là aussi, rigoureusement mettre en correspondance, finalement, l'âme et le corps. C'est pas pour rien que Leibniz invente le terme de parallélisme pour parler de Spinoza. Il a dû sûrement y reconnaître quelque chose dont il est très proche, hein, et qu'il appellera, lui, l'harmonie préétablie, et qui est le fait que Dieu, qui effectivement joue un rôle de ce point de vue assez modeste chez Spinoza, hein, que Dieu, en tant que créateur en tout cas, que Dieu a ordonné d'une certaine manière les séries de l'âme et les séries du corps de telle manière que ces séries, si vous voulez, se correspondent. Comme en mathématiques, comme deux séries, si vous voulez, bon, alors convergentes, si vous voulez. Voilà ce que... Mais il ne peut pas y avoir d'action réciproque. Vous voyez, c'est là-dessus qu'ils butent tous, sur l'action réciproque de l'âme sur le corps ou du corps sur l'âme. Il ne peut pas y avoir d'action d'une substance sur une autre. Par conséquent, au fond, la seule chose intelligible, c'est de penser, si vous voulez, que finalement l'âme et le corps, c'est la même chose, mais sous des aspects ou sous des langages ou sous des points de vue différents. Du coup, n'est-ce pas la distinction de l'âme et du corps qui disparaît ? Puisque justement, n'est-ce pas la distinction de l'âme et du corps qui disparaît ? Et je rebondis, si vous voulez, sur la question qui m'a amené à faire cet exposé. Est-ce que finalement, c'est pas parce qu'on pose l'union substantielle de l'âme et du corps, non. J'efface. Je reviens une minute avant. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on pose préalablement la dualité substantielle de l'âme et du corps qu'on est à même de reconnaître l'union substantielle de l'âme et du corps, hein ? Et au fond, là où cette union substantielle, finalement, et si ce n'est nié, du moins contourné, d'une certaine manière, la dualité même disparaît de l'âme et du corps. On n'a plus besoin de dualité, de cette dualité. On ne sait pas. Ouais. Alors on s'arrange en disant c'est là le parallélisme, c'est l'harmonie préétablie, mais c'est au fond des stratégies philosophiques destinées, si vous voulez, à rendre impossible quelque chose comme l'union substantielle de l'âme et du corps, c'est-à-dire l'action réciproque d'une chose sur une autre. Bon, je vais m'arrêter là. Pour l'instant, en tout cas, on verra pour les questions donc, après ça. Mais je pense qu'il est quand même largement temps de s'arrêter. Voilà.
Et je vais passer la parole à la salle ou à l'Oursine s'ils veulent poser des questions. Est-ce que...
Il y a
déjà une question, c'est oui. Parfait.
Bonsoir. Je voulais vous demander, vous avez parlé à un moment du médecin qui voyait le corps comme un échantillon parmi les corps humains en général. Et je voulais aller encore plus loin et voir si on prend en compte un psychologue, un psychanalyste, est-ce qu'on peut aller, on peut quand même dire cela, évoquer le fait qu'ils prennent un corps seulement comme un échantillon, un corps physique seulement.
Oui, mais d'accord. Mais un psychanalyste, il n'a pas affaire au corps quand même. Hein.
Il s'intéresse à quelle partie du corps ?
Je ne sais pas trop. Il s'intéresse... on ne va pas rentrer dans ces questions parce que c'est... D'abord, je ne suis pas du tout compétent sur ces choses-là, mais je ne crois pas, si vous voulez, que le psychanalyste, ce n'est pas de ce point de vue un regard médical. C'est plutôt, si vous voulez, une écoute, une façon de laisser à l'autre la possibilité justement d'aller au fond des choses. Mais c'est pas une, vous voyez, c'est pas de l'ordre d'une observation ni même d'une interprétation. C'est le psychanalyste, théoriquement, il doit rester en retrait, il doit rester muet hein, par rapport à. Donc, je crois pas que ce soit, vous voyez, que la relation puisse être transposée à ce niveau-là. Quand je dis que le médecin n'a pas affaire à mon corps, mais au corps, il est évident que c'est une formulation très excessive, très, très schématique, très excessive. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que il neutralise, pour ainsi dire, la mienneté, si je puis parler comme ça, de mon corps. Il neutralise le fait que ce corps, c'est mon corps. C'est pas ça qui l'intéresse, et de ça d'ailleurs il a rien à voir de mon corps. La seule chose qu'il peut savoir, et c'est justement cette neutralisation, c'est d'ailleurs au fond voir mon corps comme il en voit d'autres, pouvoir les comparer, pouvoir avoir une sorte d'échelle commune, ce qui n'est pas le cas de mon corps et du corps d'un autre. C'est pas comparable, de la même manière que le moi n'est pas comparable avec mon moi n'est pas comparable avec le moi d'autrui. Enfin, voyez, c'est des singularités pures. Or, le médecin ne peut pas avoir affaire à des singularités pures. Il ne peut pas considérer votre corps comme étant, si vous voulez, un corps unique, quoi. Sinon, sa science s'arrêterait immédiatement. Il n'y aurait pas de science.
Merci.
Bonsoir. Est-ce que vous pourriez revenir sur comment le corps peut être à la fois mon corps et un corps machine?
Oui, bien sûr. Oui. Écoutez, il peut être à la fois, non. Je ne crois pas qu'il puisse être à la fois mon corps et un corps machine. Mais il peut l'être, si vous voulez. Il peut l'être en changeant le point de vue ou peut-être en changeant la question enfin, adressée, si vous voulez. C'est-à-dire, mon corps, je dis ça comme ça, bon, c'est un peu rapide, mais c'est mon corps vu du dedans. C'est le corps que je sens quand je marche, quand je respire, quand je cours, quand je fait une action, quand je prends quelque chose. Et ça, au fond, c'est ce qu'on appellera, si vous voulez, plus tard, l'expérience du corps propre. Le corps propre, c'est le corps dont je suis le seul à posséder, pour ainsi dire, la formule. Je sais, par exemple, comment je vais m'orienter dans deux rangées de chaises sans me heurter à l'une et à l'autre. Je sais comment je vais descendre des escaliers, enfin, je le sais. C'est un savoir, si vous voulez, qui est presque incorporé, justement, à moi, c'est-à-dire qui n'est pas un savoir très conscient ou un savoir explicite, qui est beaucoup plus un savoir intime et intérieur, une connaissance intérieure, si vous voulez, sans langage, une connaissance en un sens immédiate. C'est ça qu'on appellera plus tard, je n'ai pas eu le temps d'en parler, puis je n'ai pas voulu déborder trop, parce que après ça, les idées deviennent confuses. C'est ce qu'on appellera, si vous voulez, après Descartes, notamment un penseur dont je vous recommande la lecture des œuvres, qui n'est pas très connu, surtout des étudiants, c'est Maine de Biran, qui est un philosophe du début de la fin du 18e, du début du 19e siècle, et qui a beaucoup travaillé ou réfléchi sur la question justement du corps et du corps propre, de mon corps, hein, et dans lequel il a vu justement, bon, si vous voulez, l'identité du corps, c'est l'effort pour lui. Voilà, c'est comme ça qu'on découvre son corps, c'est dans l'effort et dans la résistance de quelque chose à l'effort. C'est en ce sens qu'il parle après du corps propre qui va devenir un des grands thèmes de la phénoménologie, que ce soit Husserl, que ce soit Merleau-Ponty, ou des philosophes moins connus que ces deux-là, mais cette idée du corps propre va devenir, si vous voulez, l'idée forte, au fond, de la phénoménologie. Pourquoi ? Parce que, justement, ce corps propre, je peux le décrire, en quelque sorte, de l'extérieur. Mais ce n'est pas un corps que je peux démembrer, en quelque sorte, comme le corps machine. Et donc, je répondrai à votre question en disant, si vous voulez, que pour qu'on puisse parler de corps-machine, il faut que, d'une certaine manière, on prenne sur le corps une attitude neutralisante, c'est-à-dire une attitude d'observation, comme si j'observais des fourmis, comme si j'observais le comportement de choses dont je ne fais pas partie. Hein ? Vous voyez ? Dont je ne fais pas partie. Oui, c'est une différence de point de vue, c'est une différence, si vous voulez, d'intentionnalité. Voilà, c'est le corps-machine, si vous voulez, c'est un peu comme le sociologue voit une société de l'extérieur, quoi, en décrivant ses règles et ses choses comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on vit de l'intérieur. Hein. Et donc, il y aura toujours un décalage entre, si vous voulez, ce que le savant va dire de l'objet, parce qu'il le pose comme objet, et de ce qu'on va dire, nous, de l'expérience qu'on a de cet objet, qui n'est pas un objet pour nous. C'est trop intime pour que ce soit un objet. Et donc, de ce corps propre, si vous voulez, il n'y a pas d'autre savoir que celui que vous avez de vous-même. Personne ne va vous dire en quoi il consiste, votre corps propre. Il consiste dans l'expérience que vous en faites. Hein. Tandis que, évidemment, le corps machine au sens large du terme, c'est un corps dont on a toujours des choses à découvrir et qu'on ne peut découvrir que par des méthodes objectives d'observation, etc., comme fait Descartes, des comparaisons, des choses comme ça, hein, des images, et notamment des images mécaniques. Hein, aujourd'hui, si vous voulez, on ne va pas parler de l'horloge pour parler du corps humain, mais on va parler de la programmation, on va parler de choses comme ça, de modèles informatiques, qui correspondent plus à la manière dont le corps envoie. Vous voyez, c'est plus en termes de signaux ou d'informations qu'en termes de couplage d'organes. C'est trop gros, les organes. Descartes ne voit que ce qu'on peut voir à l'époque, c'est-à-dire c'est quand même une grande visibilité. Il voit des organes qui s'enchaînent les uns dans les autres, des muscles antagonistes, enfin l'antagonisme musculaire. Il voit des choses comme ça, des choses, si vous voulez, qu'on voit au premier mois de la première année de médecine, rudimentaire. Mais il ne voit pas tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire toute la quantité d'informations qui est contenue dans chacun des organes et qui s'échange. C'est ça le modèle. Mais au fond, le modèle, il est toujours mécanique. Il est quand même toujours mécanique.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous disiez que dans les méditations, Descartes, il se demandait ce qu'était un corps et qu'il a eu l'image du cadavre, en fait. Oui. Et est-ce qu'on peut parler de corps pour un cadavre ? Enfin, dans le sens où le corps, c'est une certaine forme, c'est un lien entre les organes. Et est-ce que après la mort, on peut encore parler de corps ? Pardon.
Bah écoutez, je vais vous répondre. C'est une bonne question, hein, mais je vais, comme toute la question d'ailleurs. Je vais vous répondre un peu de manière un peu provocatrice, c'est-à-dire qu'on ne peut parler de corps que, justement, mort. Regardez d'ailleurs, on dit qu'on a transporté que le corps puisqu'il a parlé de Johnny Hallyday, c'est le corps de Johnny Hallyday, si vous voulez, qu'on a transporté dans je ne sais pas quoi, bon, etc., etc. Hein. C'est pas Johnny Hallyday. Hein. Autrement dit, on ne parle de corps que quand il y a un cadavre. Vous voyez, son corps, ou on dit même sa dépouille mortelle d'ailleurs, vous voyez, c'est bon. Voilà, c'est-à-dire que c'est finalement ce qui reste de quelqu'un quand le quelqu'un a disparu. Et donc il reste un lieu, quelque chose comme ça, si vous voulez, une trace, un vestige, une empreinte, mais pas une chose réelle. C'est pour ça, si vous voulez, que j'inverserai presque votre question. Est-ce qu'on peut parler d'un corps autrement que mort ? Sinon, on ne parle pas d'un corps, on parle de quelqu'un. On parle de... Vous voyez ? Bon, on peut utiliser les mots, il ne faut pas se fixer sur les mots, mais malgré tout, bon, quand même, il y a quand même une signification dans l'usage ordinaire du langage, dans le langage ordinaire. Ce n'est pas pour rien, si vous voulez, qu'on dit le corps, enfin... Le corps a été rapatrié pour quelqu'un qui est mort à l'étranger. Son corps a été rapatrié, pas lui, son corps.
D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Un mot peut-être sur le mal des amputés, puisque tu as frôlé la question tu as parlé de ce bras sectionné. Pourquoi a-t-on mal à la jambe qui nous manque quand on est amputé, du point de vue de Descartes.
Le membre fantôme, oui. Oui.
Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cet exemple pour la compréhension du rapport de l'âme et du corps ? C'est peut-être une question qui te...
Non, c'est une question difficile, hein, mais c'est une question centrale. Descartes justement évoque la célèbre illusion des amputés, à l'appui de justement sa théorie du corps un. C'est-à-dire, au fond, dire le corps est tellement un qu'au fond, ce qui est essentiel pour un corps humain, c'est pas tant d'avoir la configuration extérieure des organes qu'avoir d'une certaine manière toutes les informations qui signalent que ce corps est le mien. C'est-à-dire la douleur et le plaisir, essentiellement, qui sont les deux modes d'information, au fond, de mon corps parmi les autres corps. Et il dit, au fond, voilà, dans la mesure où, et il explique ça mécaniquement, dans la mesure où les nerfs qui étaient sont toujours liés à la glande pinéale dans laquelle arrivent les informations relatives aux différentes parties du corps, eh bien, on éprouve la même sensation que si on avait mal à la main, alors qu'on n'a plus de main. Mais parce qu'au fond, ce que Descartes cherche à expliquer, c'est comment justement les informations sont centralisées dans un corps. Elles ne sont pas éparpillées, elles sont centralisées dans cette sorte d'unité qu'est la glande pinéale, qui, en ce sens, ne se soucie pas de la réalité matérielle ou objective du corps, c'est pas ça qu'elle a, mais de sa réalité subjective, pourrait-on dire, de sa consistance subjective. Et il n'y a rien de plus subjectif que le plaisir ou la douleur. C'est pour ça qu'on peut avoir mal à un membre absent. Il est absent matériellement, mais il n'est pas absent intentionnellement, c'est-à-dire dans l'esprit. Et là, il met peut-être déjà le doigt sur l'idée de l'image corporelle, de l'image du corps, l'image corporelle. Comme étant justement tout à fait différente de l'état matériel du corps, peut-être. Hein, l'image du corps, les choses sur lesquelles justement Merleau-Ponty réfléchira beaucoup.
Bon, ben, merci Pierre pour cet exposé. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir ici. Si. Voilà, bon, ben, on peut peut-être applaudir. Merci. Voilà.